Bonsoir, c'est l'after jusqu'à minuit pour reparler de cette 21e journée de Ligue 1, une 20e journée en semaine. Donc je vous le rappelle, c'était qui a débuté hier avec Saint-Étienne-Rennes, match nul à Saint-Étienne, 0 partout face au Rennais. Ce soir, notamment Bleu-sur-Mer et Valenciennes, c'était match Orange Foot. Et oui, vous n'avez pas de chance, vous payez Orange Foot et en plus vous voyez des matchs de merde. 2-0, les Valenciennes se sont imposés. Bordeaux s'est imposé après s'être fait mener 1-0, on y reviendra dessus. 3-1 sur le terrain de Grenoble. Narpi, on accueillera Narpi en cours d'émission. Montpellier est allé s'imposer 1-0 face à Lens. Lyon s'est imposé 3-1 sur le terrain de Lorient. Marseille s'est imposé avec de grosses difficultés face au Mans, 2-1. Monaco est allé s'imposer sur le terrain du Paris Saint-Germain, 1-0. Monaco qui a réussi l'exploit de gagner sans faire une frappe cadrée du match. On reviendra dessus avec nos envoyés spéciaux au Parc des Princes qui nous tireront des interviews de Zoumana Kamara s'ils l'ont pas déjà tué. Auxerre est allé s'imposer sur le terrain de Nice, 1-0. Et enfin Toulouse, Nancy. Les Toulousains n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul, 0-0. Messieurs, cette 21e journée de Ligue 1, donc en semaine vraiment pas fameuse, hein. On compte 2-0-0, plusieurs matchs 1-0. On va tout d'abord revenir peut-être sur le match qui a été le plus regardé parmi nous. On passera à Marseille après.
Avec les animateurs,
nos invités, on a Flo. Salut Flo, on a Roméo. Salut Roméo.
Salut Arnaud, salut mec.
On a Hugo, salut mon gars.
Salut les mecs, salut les filles.
Et il y a toujours des bad blagues pour commencer. C'est toujours léger. Ouais, c'est fini le hola là. C'est dommage, on l'avait fait. C'était marque déposée lors du débat Future Génération 64. Et on a également Chris.
Bonsoir.
De la Belgique.
Bonsoir.
Voilà. Et oui.
Avec ses
blagues. Voilà, la globalisation, vous vous rendez compte ce que ça fait, on est obligé de faire des émissions de foot avec des Belges maintenant globalement. Eh oui, et qu'est-ce que vous voulez ? La décadence, la pente fatale. En parlant de ça, la pente fatale, oui. Le PSG sur la pente fatale, puisque le Paris Saint-Germain a encore perdu après s'être pris une claque à Lille ce week-end. Ils se sont pris 1-0, enfin, ils ont pris pas grand-chose ce soir, mais 1-0, ça aura suffi au Monégasque pour s'imposer. Un but contre son camp d'Edel, que je recommande particulièrement, surtout à tout bon supporter parisien qui porte les couleurs rouge et bleu. Ça c'est toujours un remède très efficace. Un match sur lequel on a longtemps parlé en off avec Flo. On va peut-être laisser parler notre expert, on va dire, qui est impartial pour l'instant, notre expert belge, parce que nous on donne la parole même aux Belges dans cette émission. Vous avez vu, il n'y a pas de discrimination, pourtant on aurait le droit, hein, c'est légitime, mais bon,
c'est le quota d'Islobi.
Voilà, exactement, c'est le CSA, on est écouté par le CSA, effectivement. Notre cher belge va nous donner, on va dire, son impression sur cette rencontre, puisque tu l'as suivi, il me semble.
Oui, j'ai suivi attentivement le Paris Saint-Germain. En tant que Belge, c'est une occasion...
C'est bon, dis que t'as pioncé pendant tout le match.
Non, ça, j'ai suivi le Paris Saint-Germain. En fait, j'ai quand même mordu sur ma chic, puisque j'ai pioncé après le match donc du Paris Saint-Germain. Non, mais moi, j'aurais qu'une chose à dire, hein, à Flo, zéro tir cadré, quoi. Voilà. Voilà, je te lance, Flo.
C'est pas de papier.
Voilà, je te lance, Flo. C'est bon, tu peux y aller.
Zéro tir cadré pour Monaco, ouais.
C'est terrible, ouais, c'est ça.
C'est la stat de la soirée et de la journée, on a dit.
Je pense que c'est la stat de l'année, ça.
À Paris, je pensais avoir tout vu, en fait, mais on vient d'inventer un truc. Hein. Perdre un match sans même encaisser un tir cadré, donc voilà. Pour le but d'Edel, bon, bah, je passerai de tout commentaire. Je crois qu'il n'y a pas besoin de décrire ou d'apporter quoi que ce soit. Quoi que ce soit, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est assez pathétique. Après, pour revenir au match, une équipe de Paris plutôt bonne en première mi-temps, qui presse bien, des joueurs qui vous voyez que, comme Ouaré avait demandé aux joueurs d'être solidaires, enfin, ils voulaient voir une image pathétique. Je pense que les joueurs ont bien répondu en début de match. Ça pressait haut, ça s'entraînait. Après, on a eu beaucoup d'occasions. Il frappe deux fois le poteau, une fois avec Johnny qui frappe la barre et une autre fois avec Lindula. On domine tout le match. Voilà, mais on a très peu de choses. En seconde période, c'est quasiment la même chose. Après, maintenant, voilà, comme on disait, il y a Ruffier qui fait un match, comment dire, énorme. Ruffier a tout sorti ce soir. Il gagne deux duels face à Ovaro, un duel face à Lindula. Enfin, même quand ça touche la barre, il est encore là pour la dévier ou pour sauver les boulettes de ses coéquipiers sur la ligne. Enfin bref, Ruffier a juste été monstrueux. Je pense qu'on pouvait pas grand chose. Et en plus de ça, en faisant un match à peu près correct, si on les aide comme d'habitude à faire des erreurs stupides, bah voilà, on se retrouve encore avec une défaite ce soir. Le parc a commencé à chauffer. Bon, je disais, voilà, il manquait une petite crise. Je pense qu'on est en plein dedans. Voilà, le prochain match, c'est contre Lyon. À Lyon.
Je dois te rappeler que tu fais bien partie de la deuxième partie du championnat.
Mais voilà, j'attends de voir ce qui va se passer. Je m'attends pas à grand chose. Hein, parce que c'est bien
je te souhaite juste que. Qu'il n'y ait pas un but de Boomsong et un but de Gomi, parce que alors là, je crois que vous pouvez incendier la voiture de Sylvain Armand une deuxième.
Sinon, pour finir sur ce match, je pense que Cambori a tout tenté. On fait un match à 5 attaquants avec un repositionnement de Sami Traoré en attaquant de pointe avec Ovaro qui faisait son retour d'ailleurs ce soir. De ce côté-là, il n'y a pas grand chose à dire, pas grand chose à se plaindre. Voilà, il sort Serra Clément qui avait été mauvais contre la ligne, c'est compréhensible. Voilà, à partir du moment où on est mené, il a su faire les changements en faisant entrer aussi le Maurice qui, comme d'habitude, s'est démené hein, malgré qu'il soit limité. Se donne. Donc voilà, après, bah, c'est toujours pareil. On perd encore 3 points ce soir. Maintenant, on est définitivement. On y restera d'ailleurs, et je pense qu'il n'y a plus grand chose à espérer. Juste en espérant que voilà, c'est assez paradoxal, mais qu'on arrive à montrer autre chose, et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, malheureusement.
On a vu le proue descendre sur le bord du terrain à la fin de la fin du match, à la fin de la rencontre. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu, je crois, il me semble, au PSG depuis qu'il est à la tête du club. Donc effectivement, comme dit Chris, il avait l'air assez furieux.
Ça va changer quoi, ce pantin qui sert à rien, qui est juste là pour l'image.
On va dire que c'est peut-être. Il s'est un peu montré concerné, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Il a essayé de se montrer un peu concerné. On est par le truc.
Non, mais c'est quand tu me dis ça, tu vois, pour être poli, enfin, je veux pas dire que tu te fous de ma gueule, mais c'est. Tu vois.
Quoi? Oserais-je?
Robin Le Prou concerné, voilà, c'est. Le mec, c'est juste un pantin de Colonie Capitale, donc ose me dire que Colonie Capitale est concernée par le PSG, c'est strictement faux, et voilà, si Colonie est encore juste là, d'ailleurs, ils ont fait une super nouvelle aujourd'hui en annonçant qu'ils gelaient tous les fonds et qu'ils se concentraient juste pour les alentours et la rénovation du parc, donc juste comme on sait qu'il y a énormément de concurrence, ça se trouve, ils risquent pas de l'avoir, donc ça pourrait nous mettre dans une galère pas possible avec la perte du Parc des Princes, et la délocalisation complète du PSG, donc voilà, non, mais c'est cool ce qui se passe en ce moment. Donc, Colonie Capitale, dis-moi pas qu'ils sont préoccupés par le club, ni Robin Le Prou. Ils s'en foutent complètement. Donc, voilà, c'est super, il descend, il va faire quoi? Il va parler aux joueurs. Ce mec, il connaît rien au foot. Quelle crédibilité il a? Voilà, il a aucune crédibilité. Tu veux qu'il s'adresse à Makelele, qu'il lui dise quoi? Voilà. Ouais. Non, mais voilà, c'est super, il se montre intéressé, mais voilà. Bon, bah. Ouais. Dire de plus, hein.
Mais je pense qu'il y a. Il y a tellement de choses à dire et en même temps, il n'y a rien à dire. Parce que c'est vrai que d'un côté, on pourrait, c'est moi j'ai vu le match, donc on pourrait dire vraiment, on pourrait un peu tirer sur l'ambulance, ça ne va pas au niveau des résultats. Moi, je voyais ça d'un œil très extérieur. Maintenant, quand je vois le match de ce soir, je suis un peu peiné, quoi. Parce qu'on se dit franchement, on a vraiment une sensation, moi qui suis totalement, pour le coup, alors là, on ne peut pas dire que je suis totalement supporter neuf. Moi, j'étais vraiment mal à l'aise par rapport au Paris Saint-Germain parce que c'est vraiment totalement injuste. Et d'un autre côté aussi, on se dit, quand on essaie d'analyser le match sereinement, en essayant de dire... D'ailleurs, tu m'as posé, en préparant l'émission, tu m'as posé la question, est-ce qu'il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui est sorti du lot? Et il n'y en a pas eu un seul sur les 11. Donc ça aussi, c'est symptomatique. Enfin, peut-être le gardien, mais c'est peut-être pas dans le sens où on l'aurait espéré. Mais il n'y en a pas un seul qui est sorti du lot. Donc ça aussi, c'est problématique. Alors, bon, on sent qu'il y a de la tension et ça résume un peu ce que tu disais les dernières semaines. Et le public, là, à la fin du match, a manifesté contre l'actionnaire.
Ça, c'est tout à fait normal. De toute façon, il faut bien qu'il y ait une réaction un jour ou un autre. Le club est en train de couler et est en train de plonger dans un anonymat complet. Donc, à un moment, il va falloir qu'on bouge tous et qu'on essaye de sortir nous-mêmes de cette crise, parce que sinon, on va dans le mur. Après, pour parler tu parlais des joueurs qui aucun sortait du lot. Bon, je suis pas tout à fait d'accord. Julie fait quand même une rentrée correcte, 70 bonnes minutes. Donc, Ludo Julie, d'ailleurs, il avait pas opté si bon depuis un moment, donc voilà, c'est qu'on a signé. Erding a pas un ballon, mais se démène quand même et
essaye
de faire ce qu'il peut. Malheureusement, c'est pas facile pour lui, hein. On n'a quasiment aucun ballon à tout le temps. Après, voilà, sinon, on reste, c'est pathétique, je suis d'accord avec toi. Mamadou Sakho, qui a l'air d'être vachement marqué, là, avec sa doublette, il nous a encore refait une belle aujourd'hui. Il va falloir que, je sais pas, que quelqu'un lui parle ou qu'il parle
un peu. Mais Sakho, quand même, il est un peu coutumier du fer.
Il est pas sûr, ce joueur-là, il est pas sûr.
Boulettes... Bah, si, tu vois, des boulettes assez marquantes, quoi. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Lors de son premier match. Ouais, voilà, lors d'un de ses premiers matchs là. Rennes, tu vois, c'est toujours. Donc, est-ce que je me demande si c'est
pas du tout latéral droit, quoi. Il avait.
Il a joué latéral droit.
Oui, non, mais.
Ah, mais c'est sur un corner. Enfin, bon, bref,
je sais. Non, mais voilà, il a fait quelques boulettes, mais d'habitude, Sakho, c'est un mec solide qui tient la baraque en défense. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, on voit qu'il est en train de douter, et c'est pas bon pour nous, quoi. Si notre meilleur défenseur commence à douter et enchaîne les boulettes sur boulettes.
Déjà, ça, à mon avis, c'est parce qu'il a plus sa crête. Sa crête rayée, blond et noir. Déjà, ça a dû le faire.
C'est surtout aussi qu'il n'est pas épaulé comme il se doit, quoi. Quand t'as Zoumana Camara.
Zoumana Camara, c'est pas un bon défenseur.
Ça va être vrai, Zoumana Camara, il peut être solide, mais c'est quand même le mec qui peut toucher une boulette à tout moment et qui est loin d'être sûr. Donc,
C'est surtout le mec qui peut casser aussi une jambe.
Après, à côté de lui, t'as Sylvain Armand. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire non plus à faire sur sa saison qui est. Non, je ne vais pas me répéter vraiment parce que si on va aller faire ce que je peux faire pour lui, mais. Bon, voilà.
Il nous écoute là, Sylvain Armand, il a envie de casser la gueule. D'ailleurs, il nous l'a dit, il nous envoie des messages et tout ça. On a des menaces de mort et tout ça.
Ah, mais les gangs, hein,
c'est... Non, mais s'il nous écoute, je dirais juste que bientôt je passe au camp des loges, donc qu'il ramène pas sa Porsche. Voilà,
Finalement, on est pour la non-violence, mais on est comme Gandhi, tu vois. Donc, toutes ces insinuations, à moins que tu veuilles prendre une tasse de thé avec lui, je n'accepterai pas, je ne tolérerai pas dans cette conversation.
Je voulais finir sur un truc aussi. J'ai trouvé Makelele assez bon. D'ailleurs, c'était le seul qui prenait ballon et qui essayait qui tentait de porter le jeu vers l'avant. Donc, c'est assez pitoyable de dire que Makelele, on est réduit maintenant à faire le jeu en l'absence d'un vrai créateur au PSG, hein, parce que le PSG, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Quand c'est Seigneur et pas là, c'est encore pire. Donc voilà, Makelele, c'est démoniaque.
Tu te rends compte, c'est ça la phrase qui est terrible dans ton argumentation. Quand c'est Seigneur et pas là, c'est encore pire.
Ah ouais, on a beau critiquer c'est Seigneur sur son irrégularité, etc. Mais c'est Seigneur, voilà, quand il n'est pas là, tu sens la différence. Hein. C'est toujours lui qui apporte, qui donne des solutions offensivement. Quoi. C'est notre créateur, c'est le seul dans l'équipe. Donc forcément, quand c'est Seigneur est là, il a beau être régulier ou mauvais 60 minutes sur 90, c'est toujours lui qui va essayer de déclencher le dribble ou la passe ou la situation de but. Voilà. Donc, mine de rien, on critique souvent, mais il est souvent aussi décisif pour le PSG.
Ouais, non. Excuse-moi, vas-y, Hugo.
Ouais, et puis pour Sakho, c'est un gars qui est assez jeune, quoi. Je crois qu'il a 20 ans ou 19 ans.
Il a 19 ans.
Le gars, il a toute la défense du PSG sur ses épaules. Il est entouré de.
Allez, vas-y, lance-toi, Hugo, vas-y.
Le chèvre roumaine, quoi, c'est...
Le chèvre roumaine.
Ah, voilà.
Vous savez qu'il est dans un CAP agriculteur, vous informer, en Lorraine. Donc c'est pour ça que je connais les races de chèvres qui
existent. C'est un roumain qui se fout la gueule du Lorrain, là. C'est l'hôpital qui se fout la charité, là.
Non, mais voilà, Sakho, je crois que, voilà, faut pas non plus en faire trop sur lui, il a 19 ans, comme t'as dit. Il peut pas assumer encore certaines responsabilités que devrait avoir un patron à côté de lui. C'est pour ça que je parlais de ça justement. Normalement, il devrait avoir un mec sûr à côté de lui, un mec qui a de l'expérience, qui sait jouer au football, qui sait se relancer proprement, enfin voilà, qui est un bon défenseur central.
Un genre Puy-Grenier, quoi.
Non, mais. Enfin, voilà. Puy-Grenier, on y reviendra, mais excuse-moi, je le trouve pas non plus exceptionnel.
Non, mais c'est bien mieux qu'il est à côté de lui, quoi.
On a juste fait beaucoup d'attentes sur lui, on s'est parlé de l'équipe de France.
Ouais, c'est ça, ouais, on en a parlé un peu dans l'équipe de France.
Précipité non plus, hein, et comme t'as dit, il a 19 ans, voilà. Mais je suis sûr qu'il va se remettre. Hein. C'est juste un passage à vide. Il n'est pas en confiance. Et c'est pour ça que ça serait bien qu'il ait quelques discussions
avec un grand, avec un. Ouais. Comme Thuram, tu vois, qui peut mettre en France.
Exactement. Thuram, en plus, vient souvent dans les airs du PSG. Il parle souvent. Donc voilà. Je pense. Je me fais pas trop à la limite. Je me fais pas trop d'inquiétude sur la main de Sako. Il y a 10 fois plus inquiétant au PSG. Hein.
Comme l'attaque, par exemple, parce que...
Ouais, non, mais j'étais... Je trouve ce débat intéressant pour Sako. Tu sais, si le PSG a fait 12 sur 12, ses problèmes, ils sont plus là. Moi, tu l'as dit, Flo, c'est vraiment un problème de confiance. Et il y a plusieurs phases qui sont symptomatiques dans son jeu. À un moment donné, il est pressé par plusieurs... Enfin, plusieurs attaquants, non. Par plusieurs joueurs de Monaco, parce que les attaquants, on les a pas vus non plus du côté de Monaco. On parlera de Monaco après, je suppose. Mais...
Bah, est-ce qu'il n'y en avait pas, tout simplement.
Bah oui, voilà. On parlera un peu de Monaco après, parce que c'est quand même pas fameux non plus, quoi. C'est ça qui est terrible pour le Paris Saint-Germain. Mais le problème de Sako, c'est juste un problème de confiance. Et ces actions-là sont un peu symptomatiques. Il se fait presser. Et notamment dans les dernières minutes où il doit vraiment, je dirais, entre guillemets, en patron de la défense, en tout cas, en joueur le plus peut-être sûr de la défense les derniers mois. Il doit peut-être essayer d'amener quelque chose et au lieu de ça, il se fait presser, il botte en touche, en drop, comme les rugbymen. Donc,
il a plus toute confiance.
Ah, maintenant, c'est vraiment un problème de confiance. Quoi.
Alors que lui, pourtant, il aime bien faire son petit dribble en défense. D'ailleurs, il le réussit assez bien quand il fait un petit crochet et tout ça, mais on voit que quand il est pas en confiance, on voit ce que ça fait.
Ah, ouais, aujourd'hui, il a fait drop sur drop.
C'est la première division de district.
Ah, ouais, non. Il a tout envoyé dans les tribunes aujourd'hui. Ouais, il a tout envoyé dans les tribunes. Concernant Makelele, je trouvais ça intéressant le point de vue de Flo, mais je l'ai trouvé un peu transparent, moi, Makelele. C'est peut-être justement ça le problème du Paris Saint-Germain, c'est de se dire qu'on essaie de sortir du lot le moins mauvais, quoi. Parce que moi, je trouvais super Makelele, transparent, Makelele.
Il a surtout un rôle qui est...
Oui, c'est sûr.
À 37 ans, pas fait pour lui. C'est quand Makelele est réduit au PSG à faire le jeu, et à lui, on le voyait, hein, il était tellement épité qu'il venait chercher le ballon dans les pieds de N'Goli ou de la Camara, il prenait, il disait petit dégage, parce qu'il voyait que ça allait pas assez vite et qu'il devait relancer vite proprement vers l'avant, quoi, pour qu'il y ait du mouvement. Donc si Makelele, on est réduit là, au PSG à occuper un rôle qui est pas du tout le sien, bah tu comprends pourquoi on se marche sur la tête et qu'il y a aucun, enfin que ça marche pas, quoi. Donc c'est, voilà, c'est la situation du PSG, et si, c'est vraiment bizarre, on a des joueurs qui tiennent qui sont pas là, qui tiennent des rôles qui devraient pas leur tenir, enfin voilà, c'est...
Ouais, c'est sûr.
C'est comme je le répète souvent, hein. Bah, d'ailleurs à chaque semaine en ce moment, faut pas s'étonner que le PSG va mal, quoi. C'est pas une malchance ou quoi que ce soit, c'est que le club est pourri, à mal géré de A à Z, c'est tout, hein. Voilà.
Ouais. Hugo, il voulait dire quelque chose, quoi.
Oui, Hugo, finir sur le cas PSG.
Bah moi, ce qui m'a franchement dérangé ce soir, c'est l'attaque du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, même si on a réussi en état de grâce, il y aurait facilement, ils auraient pu en mettre deux, quoi, s'il y avait des attaquants qui étaient un minimum efficaces.
Bah, ouais. Surtout le Hindoula, quoi. On en a parlé avec Flo, honnêtement. Surtout la première action qui rate, celle
La première occasion, notamment, où il tire un peu sur Routier, ça y a rien à dire. Mais après, bon, la deuxième, la tête... Enfin, la balle est trop haute pour lui, on voit très bien, donc il ne peut pas faire grand chose. Il essaie de la remettre. Après, il croque, certes, mais bon, t'as aussi Julie qui manque de réussite, qui tire sur la barre. Louis Ndoula, pareil, il voit son tir repoussé par Ruffier, je ne sais comment, sur le poteau. Bon, Oaro perd deux duels aussi face à Ruffier. Voilà, Oaro, c'était son premier ballon, et ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué, on peut pas non plus on peut pas non plus le critiquer sur ces occasions. Oaro, je pense d'ailleurs, nous a fait du bien et nous en fera. C'est notre recrue. Hein. On peut pas recruter au PSG, donc on va faire notre recrue. Donc je pense que lui nous fera du bien aussi. Mais voilà, l'attaque du PSG, il y a du talent, il y a rien à dire. Il n'y a pas eu de réussite, il y a eu un grand gardien. Voilà. C'était un match sans. Mais je pense pas que.
Non, Flo, honnêtement, je suis pas d'accord. Quoi. attaque du PSG, quand tu me dis qu'il y a du talent et que tu mets le nom de Lindoula à côté, non. Non,
non, mais... Lindoula, non, non, il était complètement à côté, c'est sûr qu'aujourd'hui, à un moment
non,
donné.
puis même d'habitude, il est trop irrégulier.
Ah non, non, mais je
Lindoula.
suis pas.
Je suis désolé,
je parle de.
Il n'a pas le niveau d'un club comme le Paris Saint-Germain.
Ah non, mais aujourd'hui,
enfin,
il était.
Si tant est encore qu'on puisse attribuer un standing assez élevé au club du Paris Saint-Germain,
je suis pas d'accord.
Non, non, mais Flo, plusieurs fois, il fait n'importe quoi, Lindoula.
Les plus efficaces, bon, il fait n'importe quoi.
À un moment donné, il est seul face au gardien, il tire, il fait une tête de j'allais dire de tapette, c'est pas des propos homophobes.
De poussin.
Il fait une tête de poussin sur le gardien, quoi. Et à un moment donné, plusieurs fois, quand il a des choix, il fait toujours le mauvais choix. Alors c'est peut-être un problème de confiance et de malchance, quoi. Mais je veux dire, oui, aujourd'hui, il a pas fait grand-chose, quoi. C'est clair.
Aujourd'hui, il n'a pas fait un grand match, faut pas
non,
se
ça c'est sûr, c'est sûr.
Et Lindoula, à la base, n'est pas titulaire, enfin, n'est pas là pour être titulaire non plus. Donc à la base, c'est Oaro et Harding. Donc dites-moi pas quand même qu'il n'y a pas de talent avec ces deux mecs. Et puis donc voilà. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un match de sang. Il n'y a pas eu de réussite. Voilà, mais Paris a une des meilleures attaques de Ligue 1 depuis une saison. Et c'est justement notre point fort. Donc on ne va pas commencer à se critiquer ce qui marche
pas. Ouais, tout est relatif, Flo, ouais, parce que vous avez mis 5 buts à Boulogne, 3 ou 4 à Grenoble. Donc bon, ça.
Ah, c'est relatif, quand même.
Non, pour moi, non. Pour moi, il y a énormément de joueurs, y compris en attaque, qui ne devraient pas être au Paris Saint-Germain. Je sais qu'on encense très souvent Erding, par exemple. Erding, pour moi, il a toujours pas prouvé contre un vrai club pouvoir faire des performances dignes de ce nom, quoi. Donc,
Erding, il a pas de ballon.
Ouais.
Oui, on est d'accord. Oui, tu vas me dire, le seul ballon qu'il a eu contre Lille, il l'a mis, mais
voilà. Et heureusement qu'il est là depuis le début de l'année.
Chris, pour terminer sur ce sujet, les réactions peut-être des entraîneurs.
Ouais, les réactions des entraîneurs, les réactions des auditeurs aussi, ça taille pas mal le Paris Saint-Germain. Bon, il y a de l'ironie, etc. Évidemment, dans ce genre de crise, ceux qui ne sont pas trop fans du Paris Saint-Germain s'en donnent à cœur joie, comme tu peux l'imaginer, Flo. Peut-être la réaction d'Antoine Camboire.
Roméo est-il sur le chat? Ah. Il se fait pas. C'est un faux nom et il crie.
C'est ça en fait. C'est ça, Roméo, tu étais démasqué. Donc la réaction d'Antoine Camboire, c'est Hugo 08 qui nous le dit ça. On le salue d'ailleurs. Ce soir, on aurait pu jouer 3 heures. On n'aurait pas marqué. Ah tiens, il y a eu un peu de maladresse. Un peu, je crois que c'est peut-être exagéré. Enfin, je lis sa déclaration, on l'interprétera après. Hein. Il y a eu un peu de maladresse et un gardien en état de grâce. Je suis déçu du résultat. Mais j'ai aimé le comportement des joueurs. C'est rageant. Il y a énormément de frustration. Mais j'ai enfin retrouvé une équipe. J'ai énormément aimé la façon dont on s'est comporté. Bon, il y a pas mal de généralités, Arnaud, par rapport à cette déclaration.
Bah, justement, non, mais ça me fait penser, est-ce que, bah, par exemple, Flo, est-ce que tu as écouté l'interview de Makelele avant le début de la rencontre?
Oui.
Est-ce que tu as entendu? Non, honnêtement, c'est honteux ce qu'il a dit au début de la rencontre. Il a dit, ce soir, je veux juste qu'on soit solidaires, qu'on joue bien tous ensemble, le résultat, c'est en second plan, c'est pas important, on verra bien après ça. Si tu pars comme ça dans une rencontre contre un club moyen, excuse-moi, le Monaco...
C'est le discours de Kiev, mon ami.
Comment ?
C'est le discours de Kiev, mon ami.
Ah bah, non, mais c'est le capitaine, il a le droit de prendre ses responsabilités quand même un petit peu devant les médias. Que ça soit un Jean-Yves Maurice qui déclare ça, parce qu'il ne sait pas trop comment s'exprimer. Makelele, il a 36 ans, il peut quand même... Il tente quand même...
Il a 37.
37. 37, il peut quand même prendre ses responsabilités et dire vraiment ce qu'il pense et dire bon, on va se remuer le cul pour gagner les 3 points. Monaco, c'est une équipe qui est pas trop mal, mais qui est à peu près notre niveau cette année.
C'est-à-dire qu'on a tellement été pitoyable à la ville que tu peux comprendre que ça marque et que le mec.
Voilà. Honnêtement, si t'as pas l'ambition de gagner à domicile contre une équipe comme Monaco, qui est peut-être d'accord 5e ou 6e du championnat, mais qui a un niveau vraiment, vraiment, mais alors, vraiment très limite.
Quand tu vois le. Bah, de toute façon, c'est la tendance dans les sorts du PSG. Il n'y a pas de confiance, on se rassure comme on peut. Avec les, enfin...
ouais, mais je veux dire, c'était déjà symptomatique. Quoi. C'est, bon, j'allais pas dire que j'avais prédit la défaite avec une déclaration pareille, mais je veux dire, ça peut dénoter du joie de l'état d'esprit. Quoi.
Quand tu vois la réaction de Camboré, ce soir, c'est pareil. Quoi. Quand il dit j'ai énormément aimé la façon dont on peut se comporter et que j'ai enfin retrouvé une équipe, voilà, c'est. Je dis pas, il se fout de notre gueule, mais c'est limite, quoi. Maintenant,
ouais, voilà.
Il est content qu'on ait perdu 1-0, mais qu'il a retrouvé. Enfin, ouais, on n'a pas fait pire que Lille. Bah, franchement, bravo, toi, non? on se félicite, hein, parce que à Lille, si on faisait pire que Lille, faut le faire quand même, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc, il dit ça, c'est cool. Si c'était son objectif avant le match, comme l'a dit Makelele également, voilà, fallait pas s'entendre non plus à que ça soit le foot de champagne et voilà quoi. Si l'objectif du PSG avant le match était de se mieux comporter que le match à Lille et d'être un peu plus fort et de trouver une équipe de solidarité, on peut dire qu'on l'a fait, on est content, mais le résultat est le même et on n'est pas moins pathétique. Pour moi, c'est un tout. Hein. Le discours, que ça soit Makelele ou Kamouré, est ridicule. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Arnaud, mais bon.
Si, tout à fait. Hugo ?
Moi, je pense que Kamouré, il réussira pas au Paris Saint-Germain, il faut.
Ah bon ?
Oui, je pense qu'il non, mais là, il réussira plus. Je pense que c'est plus une réaction d'orgueil que.
Je trouve qu'il est même plus lucide en fait. C'est ça qui va dire.
Non, mais faut aller passer tout de suite. Faut arrêter la conduite.
Ça, malheureusement.
Il y a une clause.
Il y a une clause, mais. Il y a de l'argent à débourser s'il est viré, c'est sûr. Et Colony, il fera pas. Donc voilà, c'est comme Boiré restera en
PSG. C'est peut-être pas les 14 millions de Benitez.
Mais non, mais comme Liverpool. Comme Boiré restera en
PSG. Ça, c'est encore plus honteux.
Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de tête.
Messieurs. On va embrayer sur Monaco, là on a fait pas mal de temps sur le PSG, il y avait quand même une équipe en face, même s'ils n'ont pas montré grand-chose ce soir. Les Monégasques, bon, on va en parler un petit peu avec toi Hugo, évidemment on va peut-être faire ça sous forme de, on va dire, de notes, on va attribuer quelques notes aux joueurs qui t'ont marqué plus ou moins bien à Monaco.
Il y en a
Évidemment, on va revenir sur Ruffier, même si on en a déjà parlé. Et puis surtout, ceux qui t'ont marqué en moins bien, je pense notamment à Alonso, qui moi, je lui mettrais une vraie mauvaise note. Je mettrais également une mauvaise note à Puy-Grenier en défense, je sais pas ce que t'en penses. Et puis au milieu de terrain, Diego Pérez, Eduardo Da Costa, de toute façon, c'est ni la faute ni l'un ni l'autre, mais pour les aligner à côté.
Ils étaient marrants, Pipo et Merlin, Eduardo Costa et Diego Pérez, là. Les mecs, ils osent se plaindre à l'arbitre des semelles et des rajouts des joueurs parisiens. Franchement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Les mecs, chaque semaine, ils foutent des semelles à tirer l'arigot et ils jouent les cadors et les salopes, par des mots de mon expression, sur le terrain. Et là, ils osent se plaindre. Ça m'a fait marrer, quand même.
Hugo, doucement, Gollum, là. Tu vas t'étouffer. Hugo, vas-y. Ton évaluation, en gros, qu'est-ce que t'as retenu
En moyenne, je mettrais à peu près 4-5 à plus, quoi, pas plus.
C'est vrai, par exemple, avec comme Néné, je sais pas ce que t'en penses, mais on l'a vu en première mi-temps, là encore, il a encore fait comme d'habitude trop, il en fait trop, il fait des bons trucs, mais il en fait trop. Par contre, en deuxième mi-temps, on l'a pas eu du tout.
Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a vu personne.
C'est
un seul joueur, c'est ça le problème.
On a vu Ruffier en deuxième mi-temps.
Ce soir, c'était vraiment le bon match de merde de Monaco, comme on pouvait voir depuis les saisons, comme on a pu voir à Nancy, à Sochaux.
La semaine dernière, contre Boulogne, pas contre Boulogne, c'est contre qui ? Contre Sochaux, oui, justement. Qui gagne 2-0, mais 2 buts en 5 minutes.
Ouais. Ça va, ça passe encore, c'était le bon match moyen, là, c'était le bon match de merde. Et pour une fois qu'on se prend pas une branlée, qu'on perd pas 2-0 bêtement, voilà.
Il y a une hiérarchie en fait dans les matchs, dans la qualité des matchs moisis de Monaco. Tu sais. Bon match moyen, bon match de merde.
Bon, là c'est un bon match de merde et tous les joueurs ont fait un match de merde, sauf un qui doit aller en équipe de France maintenant, parce que là.
Au moins sur le banc, ouais, tout à fait.
Minimum sur le banc.
Minimum sur le banc. Mais
depuis le début de l'année 2010, on n'a pas pris un but. Ruffier est pour quelque chose. Hein. Contre Tours, il a sauvé deux face à Giroud en fin de match. Contre Sochaux, il a fait un arrêt énorme face à Boudebouz, qui au point de pénalty, qui met une en pleine lucarne, il va la chercher. Ce soir, il a écœuré simplement le Paris Saint-Germain.
Il manquerait plus qu'il arrive à convaincre notre cher Narpi, qui nous a rejoint, qu'il a fait un arrêt plus beau que celui de Jano la semaine dernière.
Un arrêt plus beau, déjà, salut les gars, bonsoir à tous. Je sais pas, alors j'ai pas vu cet arrêt, mais faudrait que je le voie cet arrêt de Ruffier, mais un plus bel arrêt que l'arrêt de Jano la semaine dernière, faut vraiment faire très 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 fort.
Ça sera le dernier test à passer avant qu'il parte en équipe de France. Ça sera l'évaluation de son arpi. Et je peux te dire que c'est quelque chose. Flo, tu voulais continuer sur les joueurs de la Coupe.
Voilà, exactement. Hormis, bien sûr, Ruffier, comme vous l'avez dit, qui a fait un match énorme, mais je crois qu'il y a rien à redire là-dessus. Il y a un joueur qui m'a plu aussi, c'est Aruna, là, Lukman Aruna. Mm-hmm. Même si c'est pas forcément sa position en tant que 10, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose chez ce joueur. Donc, il porte bien le ballon, il trouve bien les intervalles. Enfin, je pense qu'il a des qualités de passe aussi qui sont. Enfin, voilà, c'est un joueur, je pense, qui est aussi assez intelligent. Donc, il est jeune en plus. Donc, peut-être repositionner, comme on le disait, à côté d'Eduardo Costa ou de Diego Pérez, un des deux, quoi, à côté, je pense que ça pourrait être pas mal. En tout cas, il m'a fait bonne impression.
Ouais, ouais. C'est un joueur qui. Bon, on sent qu'il a quelque chose en plus. Déjà, il a le physique. Je pense qu'à son âge, il en bouffe pas mal en physique. Puis, techniquement, il est pas mauvais, mais le problème, franchement, d'Aruna, c'est un gars qui est hyper nerveux sur un terrain. Je me souviens d'un match où, un coup, il a été rentré 2 minutes, il prend un carton jaune. Voilà, c'est ça, c'est Aruna, quoi. C'est Aruna, c'est un gars.
C'est notre beau crivage africain.
Tout à fait, il peut. Premier ballon, bah, il va avoir un carton jaune. Et tu comprends pas pourquoi.
Et Arnaud, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense qu'il devrait être un peu moins avancé, je pense, dans le système de Monaco.
Ah bah évidemment, oui, déjà, n'importe quel entraîneur qui n'aurait pas de moustache saurait qu'il faut ne jamais mettre Diego Pérez et Eduardo Costa l'un à côté de l'autre. Ouais. Ça tombe sous le sens. Que t'en mettes un des deux, on est tout à fait d'accord, parce qu'il faut quelqu'un qui défende. Mais alors à côté, il faut que tu mettes un vrai numéro, un mec qui peut un vrai numéro 8, quoi, un mec qui peut t'apporter le jeu vers l'avant. Quoi. Et en l'occurrence, Aruna pourrait le faire. Coutadeur est peut-être un petit peu trop léger au niveau du physique. Bon, là, il n'était pas là ce soir, il était blessé, il me semble. Par exemple, un mec comme Aruna, c'est exactement le profil qui serait bien pour compléter un bon milieu de terrain du côté de Monaco. Mais bon,
non, malheureusement. Il semble à quoi ce soir? Il semble à Pérez, Aruna et Barbo Costa. Donc si on veut avoir le ballon, c'est pas l'idéal. Quoi.
Ouais, voilà. Oui. J'ai deux trois trucs à dire sur Monaco avec mon avis de non expert international, va-t-on dire. Mais
faire le faux modeste là, pour qu'on t'encense après sur le chat.
Non. C'est justement pour qu'on pardonne. Voilà. Sur Monaco, j'ai noté plein de trucs intéressants. Moi, j'ai. Bah Néné, le problème, c'est ce que je dis toutes les semaines, hein. Néné, c'est Néné, c'est Jojo, c'est notre ami Jojo, très présent, on le salue.
Jojo, wouh.
Non, c'est Jojo sur le chat qui nous précise que voilà, il est quand même le meilleur buteur du championnat, quand même. Et c'est ce qu'on dit aussi très souvent, c'est que c'est quand même le meilleur buteur du championnat. Donc voilà, c'est vrai que ce soir, on a parlé beaucoup de joueurs qui ont déçu. Moi, Park m'a beaucoup déçu, il était très isolé. J'aurais même dit sur son île déserte, enfin je sais pas Hugo... ce que t'en penses, je te laisserai peut-être la parole après. Bon, l'homme du match, très clairement, c'est Ruffier. Il est énorme. Moi, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un gardien aussi bon. Enfin, je savais qu'il était très bon, mais faisant un match aussi énorme, il a dégoûté le Paris Saint-Germain. Parce qu'en plus, le truc, c'est que, comme tous les fiances, il a de la chatte, quoi. Il a vraiment de la réussite. Il touche trois fois, je crois. Il dévie deux fois le poteau sur la barre transversale. Enfin, c'est un truc de fou. Et concernant Aruna, en fait, c'est une trouvaille d'un spécialiste entre guillemets belge, Stéphane Poels. Il avait acheté 250 000 euros.
Encore lui.
Il avait acheté 250 000 euros et il disait qu'il n'en pensait que du bien. Alors le problème, c'est qu'apparemment, il semblait, comme tu l'as dit, très nerveux, mais surtout très irrégulier. Il a toujours pas, Poel disait, il a toujours pas un pic de forme comme ça. Mais c'est vrai qu'au prix où il a acheté 250 000 euros dans un tournoi de jeunes, c'est quand même une bonne trouvaille. Surtout que
le tournoi de jeunes, c'est la Coupe du Monde des moins de 17 ans.
C'est ça, moins de 17 ans, exactement.
Et il a été élu meilleur joueur.
C'est ça. Et donc quand même, 250 000 euros, c'est une bonne opération pour lui, voilà. Mais sinon, peut-être la conclusion pour Monaco, c'est moi surtout Hugo, ou Flo va interagir, mais après je te poserai une question, Hugo, parce que tu as l'air de bien connaître Monaco. Moi, j'ai toujours la même impression avec les Monégasques, c'est que c'est toujours pareil, quoi. Et très souvent, c'est pareil. Alors, tu disais, oui, au milieu de terrain, il n'y a pas de joueurs qui ont les capacités à bien tenir le ballon, etc. Mais le problème, c'est que l'équipe joue en contre, c'est très souvent le cas, voire tout le temps. Et au niveau de la manière, ils prennent les points, mais ce n'est pas tout le temps ça. Et moi, j'ai toujours l'impression avec Monaco, la désagréable impression, qu'ils sont très souvent sur la corde raide dès qu'à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont eu, il y a quelques semaines, ils ont eu des résultats qui allaient en dentille, parce qu'à un moment donné, ils sont très souvent sur la corde raide. Alors, il y a un moment, ils ont de la réussite. Néné marque sans bien jouer, etc. Mais moi, tout ça m'interpelle du côté de Monaco. Même ce soir, une victoire vraiment vraiment à la. Allez.
Ah,
Vraiment très, très étriqué, c'est un euphémisme de dire ça, je pense. Flo, peut-être tu voulais réagir par rapport à ça, je crois.
oh. Pour revenir, oui, la victoire c'est un hold-up total, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, je voulais surtout revenir ta petite analyse là, sur les joueurs et sur Park notamment. Je pense que Park il souffre un peu du même problème que Erding, c'est-à-dire qu'il souffre de la tactique de son équipe. Et il est un peu poussé vers l'attaque, comme disait Hugo. Quand t'as un milieu Costa, Pérez, Arna, c'est voilà, pour recevoir les ballons, c'est plutôt difficile. Donc Park il doit se retrouver les chercher et il n'en reçoit pas beaucoup. Donc, je pense que au-delà de ses performances, on ne peut pas citer de moyenne, je pense qu'il souffre surtout de la tactique de l'équipe. Donc c'est pour ça que elles sont en deçà. Mais voilà, c'est comme pour Erding, il a du talent et quand il reçoit le ballon, je pense qu'il le montre, il le montre assez. Donc voilà, c'est toujours ce problème en Ligue 1. Des attaquants esseulés qui ont aucun ballon à cette soirée.
Et puis Park, c'est plus un attaquant de soutien qu'on fait jouer en pointe.
Ouais, voilà, exactement.
Ouais.
Donc voilà, à un moment,
Tout à
il a
fait.
quand même réussi à marquer 6 buts dans une équipe qui joue comme des poussins, quoi, comme des seniors de Division 3.
Peut-être pour avoir une conclusion par rapport à Monaco, ce que tu penses de ce que j'ai dit, et cette sensation quand même qu'en jouant toujours sur le contre et en ayant un peu de réussite comme ça à chaque match, c'est un truc où t'es rapidement sur la corde raide, et dès que les résultats suivent pas, bah, la réussite tu l'as plus dans ce genre de match. T'es d'accord là-dessus Parce que je vois que les Monégasques s'enflamment, on n'est pas loin de la place européenne. Mathématiquement, ils sont pas loin, mais je dirais que dans le jeu, enfin, je pense qu'ils y sont loin, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu penses de ça. C'est un avis qui. Enfin, je sais pas. C'est mon avis.
Bah ouais, dans le jeu, de toute façon, on est loin. Bah, je pense que tu l'as bien vu ce soir. C'était mauvais, quoi. C'était nul. Dans le jeu, on est loin, mais après, on dit dans le jeu, Monaco va rien faire, mais au final, on est sixième avec 36 points à 3 points de la deuxième place. On est le 20 janvier. Donc, même en jouant mal, on arrive à tenir une cadence raisonnable. Je me dis pourquoi pas, mais bon, il n'y a pas de quoi s'enflammer. J'aimerais bien voir ce que donne un Monaco qui joue bien, par contre.
Peut-être qu'il
Est-ce que ça
perdrait.
existe?
Peut-être qu'il
Non, déjà.
perdrait.
Déjà, il faudrait sa place par. Quand Monaco jouera bien, c'est déjà un bon coup. C'est le seul qui peut assurer la place de relayeur. Et ensuite, je pense qu'un Bogut Jensen nous aiderait bien, mais bon.
Et où tu veux le
Ça
placer
va,
alors?
c'est
Le
une
petit
question.
Mazou, toi. Faut voir ce qu'il peut donner aussi. Mazou, c'est le sosie de Lolo. Les deux, ils sont aussi vilains l'un que l'autre. Ils ont des coupes à l'ancienne, ça n'existe plus. Il y a la Mafalda qui fait encore cette coupe-là, mais encore. Faut arrêter. Messieurs, on a donc fait trois bons quarts d'heure presque sur ce match Monaco. Paris Saint-Germain-Monaco 1-0, je le rappelle pour les Monégasques. C'est Edel qui a marqué contre son camp ce soir. Un autre match qui nous intéresse ce soir, évidemment, c'était les Bordelais qui n'ont pas eu la vie facile à Grenoble. 3 buts à 1, ils sont tout de même imposés. Et on avait notre envoyé spécial, notre correspondant exclusif, notre boutiquier grenoblois, notre star pornographe. Non, pardon. Narpi, voilà, que dire de plus? Je ne saurais comment l'introduire mieux. Narpi, qu'est-ce que
Oh!
tu as tiré de ce match-là?
Tout d'abord, tu m'as très bien introduit. Alors, ce beau match remporté de main de maître par les Bordelais, un match de champion, tout simplement. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le match, en première période, Grenoble assiège le but bordelais avec un nombre incalculable d'occasions, une frappe à 20 mètres de Courtois sur le poteau, une frappe d'Acour sauvée sur sa ligne par Trémoulinas, et ensuite, juste avant la mi-temps, une exceptionnelle frappe de Batless à 25 mètres, pleine lucarne, Ramey ne peut absolument rien faire. 1-0 du côté de Grenoble, on se dit qu'on peut le faire enfin, mais non, tout simplement. Donc Bordeaux revient sur le terrain complètement transformé. Blanc, on sent que Blanc a eu un discours très important dans les vestiaires, et au final, en début de seconde période, Romao. Alors d'abord, il y a le rouge de Juan. Mérité complètement. Voilà. C'est tout simplement attaque par derrière. Il avait fait la même en première période, il prend le jaune. Bah, il réitère cet acte qui est tout simplement complètement débile en seconde période. Il est exclu, voilà, point barre. Voilà, c'est tout simplement mérité. Donc au final, là, c'est le premier tournant du match. Le deuxième, il arrive 2 minutes plus tard avec Romao qui est vraiment complètement seul à 6 mètres du but. Il est sur son pied gauche, il frappe, il la met à côté, on rate le 2-0. Et puis ensuite, les Bordelais ont accéléré, ont enflammé le match pendant 10 minutes. Deux centres où les latéraux grenoblois sont complètement absents. Premier centre de Trémounias pour la tête de Gouffran. Ça tape la barre, ça ressort, ça retape la barre, ça rentre. Voilà, un partout. Et puis ensuite, les Bordelais, ils ont eu trois actions construites, la troisième centre de Chalmé, parfait sur la tête de Chamac, et puis c'est au fond. Et puis derrière, Grenoble n'y arrive absolument pas. Bazdarevic perd complètement les pédales à 10 contre 11 en faisant sortir une première fois Courtois pour faire entrer Matsui. Ça, c'est bien, mais bon, on aurait préféré voir Matsui débuter le match et Courtois sur le banc, parce que depuis le début de l'année, il sert absolument à rien. Et puis ensuite, voilà, c'est la débandade. Le capitaine Batles qui sort, remplacé par Zoran Rendulic, défenseur central.
À tes souhaits.
Voilà, donc
ouais, elle est pourrie, celle-là. J'aime bien la faire.
En tout cas, oui, non, mais c'est enfin, à mes souhaits, oui. Enfin, j'aurais souhaité ne pas le voir, surtout. Et donc, c'est tout simplement, ce mec est pas bon. Mais c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il essaye. Mais il n'y arrive pas. Donc, au final, on se retrouve avec une équipe qui est n'importe quoi. Romao, qui est en défense centrale, on se demande d'ailleurs où est César, qui remonte au milieu de terrain, qui essaye de faire son travail, mais bon, voilà, c'est laborieux. Ensuite, là, on a encore un très bon coaching de Bazdarevic, qui fait sortir le Bouya à 2-1. C'est simple, c'est bien de faire sortir le meilleur joueur de l'équipe. Pour faire entrer Yorick Ravet, qui est surtout un très bon jeune ailier droit. Mais bon, voilà, il ne peut rien faire avec un cours seul en pointe. Qu'est-ce que tu veux faire avec un cours seul en pointe? Et à côté de ça, eh ben, on a Blanc qui fait rentrer Plasil à la place de Sané. Il faut le dire. Plasil à la place de Sané. Donc, il fait sortir un défenseur central. Et il avait déjà 2-1. Il fait sortir un défenseur central pour faire entrer un milieu relayeur. Alors ça, c'est clair et net qu'il avait envie de continuer à garder le ballon au milieu de terrain. Ensuite, il fait sortir Jussier pour faire rentrer Kavenaghi. Voilà, un ailier pour un avant-centre. Premier ballon de Kavenaghi, 3-1, point barre, voilà, c'est terminé. Et puis au final, on se retrouve la queue entre les jambes en se disant bah, « qu'est-ce qui s'est passé ?» Bah, voilà, c'est tout. On a eu un nombre incalculable d'occasions en première période, comme contre Saint-Etienne. Et à chaque fois, on n'arrive pas à la mettre. Il n'y a que Batles qui te sort l'exploit depuis le temps. Ça fait un an et demi quand même. Hein. Depuis le temps qu'on demande à Batles de frapper. Parce que quand il était à l'OM, quand il était à Toulouse...
Oh, il en a mis des frappes énormes.
Ouais. C'était exceptionnel.
Tu te rappelles celui du PSG Marseille, il me semble, où il y avait eu 3 buts exceptionnels. Là, il y avait eu le but de Pauleta, tu sais, qui avait lobé Barthez, là, le fameux but, je sais pas si tu te rappelles. Derrière, ouais. Il y avait eu un but d'Edouard Cissé, je crois, pour le PSG, une frappe de 30 mètres. Et Batles aussi avait mis un but aussi énorme.
Ouais, et puis on se souvient du match contre Toulouse, contre Bordeaux au Vélodrome. Il rentre à 5 minutes de la fin et il met une frappe pleine lucarne. On se souvient de son but de 40 mètres à Toulouse, quand il joue encore à Marseille. Et là, depuis qu'il est arrivé à Grenoble, il frappe pas. La première frappe qu'il met... À cette distance en un an et demi, il la met pleine de carme. Il y a quoi de se poser des questions, il y a quoi de se dire attends, quand même, t'aurais pu le faire avant, non, ça nous aurait servi, ça compte pas. Enfin bref, c'est pas grave, hein, mais bon. Et puis voilà, on a des occasions, on les met pas. Ensuite, on est à 10 contre 11, donc forcément, on commence à reculer. On se prend les deux buts coup sur coup derrière, bah voilà, on est mort. Bordeaux a monopolisé le ballon ensuite. On a eu aucune occasion après. Donc, Bordeaux a monopolisé le ballon. C'est sûr qu'en tant que Grenoblois, ça fait légèrement chier. Quand tu vois les mecs, entre Fernando, Siani, Tremoulinas, Chalmé, Tiara, ils se font tourner le ballon. Ramé...
Moi, c'était vraiment la grosse équipe, quoi. Bordeaux. Ouais,
c'était, oui, il y avait quand même beaucoup de titulaires. Il y avait Chamac et Coutuf qui étaient là. Il y avait Bouffran. Bon, il y avait quand même les titulaires. Quand, bon, Ramé, il met un quart d'heure à chaque fois pour dégager le ballon. Mais c'est le jeu. C'est ça. Et ensuite, ils plantent le troisième. Et puis voilà, ils ont plié le match. Un match de champion de la part des Bordelais. Ils nous en ont donné l'habitude. Bah, cette fois-ci, ils le montrent encore. Ils sont inarrêtables. On a cru en première période pouvoir les battre. Mais c'est tout. C'est après, quand ils sont revenus, Blanc, on voit la différence entre un grand coach et un petit coach, et entre grande équipe et une petite équipe. On a tenté. On s'est fait des... on a raté les occasions, on a mis un but, heureusement. Et derrière, bah, ils ont enflammé le match 10 minutes de 1 à 11 contre 10. Derrière, ils ont monopolisé le ballon à 10 minutes de la fin, ils prennent le troisième, et puis voilà. Donc, rien à dire. Du côté de Grenoble, on commence à avoir l'habitude, on perd tous nos matchs, donc c'est pas une surprise. Du côté de Bordeaux, ça confirme une nouvelle fois que Bordeaux va être champion, surtout que Lille a perdu. Donc là, c'est terminé. Championnat est plié, et puis ils ont fait quand même un bon match, les Bordelais. Les latéraux ont été excellents, Tremolinas et Chalmé ont été, ils ont fait une passe décisive chacun, ils ont été excellents. Gourcuff n'a pas été énorme, Chama qui a quand même bien pesé sur la défense, Fernando a été impérial au milieu de terrain, Diarra pareil, Siani très bon, Ramé a fait son match et a été plutôt propre dans ses interventions, sur le but il peut rien faire. Mais sinon voilà, donc c'était un match parfaitement maîtrisé de la part des Bordelais et une nouvelle grosse déception pour les Grenoblois.
D'accord. Et sinon, on va rester du côté bordelais. Comment t'expliques, on va dire, c'était intentionnel de la part de Laurent Blanc de vous laisser jouer vraiment en première mi-temps, enfin entre guillemets, vous laisser jouer quoi, en première mi-temps et de réagir en seconde, où Grenoble a vraiment pris à la gorge cette équipe de Bordeaux, ce qui montrerait quand même qu'ils sont pas totalement imprenables quoi, si c'est pas intentionnel.
Bah, je pense que c'était pas vraiment intentionnel en première période, non, parce que faut dire ce qu'il y a, on a très bien joué. On a vraiment très bien joué. Et puis, alors peut-être que Laurent Blanc, à un moment, au début, voulait peut-être nous laisser le ballon, parce qu'il avait vu que contre Saint-Etienne, les deux buts qu'ils mettent, c'est en contre-attaque et notre défense était complètement à la ramasse. Sauf que nos latéraux étaient quand même assez bons en première période et les seuls mecs capables de prendre la profondeur c'était les deux ailiers Jussier et Couffrand, et ils ont eu très peu de ballons potables en première période, et Chama qu'on sait c'est pas un joueur profondeur, hein. Je suis pas sûr que c'était intentionnel. En tout cas, ce qui était intentionnel, c'est que derrière, à la mi-temps, il transforme complètement le visage de son équipe. Et c'est là où tu vois qu'il a quand même une énorme influence sur le jeu de Bordeaux.
D'accord, ok. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les Bordelais. Maintenant, Flo, t'es d'accord? Ou est-ce que tu maintiens encore que le seul adversaire de Bordeaux, c'est Bordeaux pour le titre de champion? Tu nous fais encore cette banalité-là. Honte à toi, ça devrait être prohibé dans une émission d'une qualité comme le Devafter de Génération Soccer, le genre de conneries comme ça. Exactement comme les déclarations de Camboire ou celle de Bazin, elle était pas mal.
Pas mal, ouais.
Un petit mot justement.
Qui a osé déclarer au micro de Canal Plus, si on joue comme ça, on gagne 9 matchs sur 10. Voilà. Je crois que c'est dit.
Oui.
Je
pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. On a perdu notre correspondant marseillais qui s'est enfoui sous sa couette ou alors dans les profondeurs du Vélodrome. En tout cas, on peut peut-être en dire un petit mot quand même. Marseille qui réussit à gagner un match qui était quand même pas évident, faut le dire. Contre Le Mans, ils se font mener, le public commence à se mettre contre eux, ils réagissent assez vite. Et c'est Niang par deux fois qui permet aux Marseillais de revenir au score. Alors Marseille qui a réalisé une grosse deuxième mi-temps, un peu comme à l'image de Bordeaux, quoi, un peu à l'image de Bordeaux de ce que tu viens de nous raconter, Hugo. Donc Marseille qui, avec cette victoire quand même, qui se replace dans la course, quoi. Ils sont 36 points, sont à 3 points derrière les Montpellierains, on va en dire un mot dans quelques minutes. Ça permet quand même encore aux Marseillais de pouvoir entre guillemets, on pouvait pas dire espérer parce que même en cas de défaite ils pouvaient toujours espérer, mais pouvoir vraiment se replacer dans la course à la Ligue des Champions qui commençait à être compromise quand on voyait le début du match. On se demandait vraiment si Marseille avait cette capacité de réaction à pouvoir revenir comme ça dans un match dans une victoire entre guillemets, dans un match contre un petit club comme Le Mans. Donc Marseille a fait le boulot. Encore un très très bon match de Fabrice Abriel quand il est rentré. Ben Arfa a fait une bonne rencontre. Apparemment, Flo, t'as vu les différentes notes que lui ont attribué les médias sur Internet. Il a fait une bonne rencontre.
Ouais, il a une note. Ouais. Mais c'est un temps qu'on a dit de lui qu'il avait fait son meilleur match de la saison. Voilà.
Tout est relatif encore, puisque c'est ouais, le Mans en face, c'était le Mans en face. Bon, voilà, en tout cas, Marseille qui arrive à la quatrième place, qui profite donc du faux pas de Lille, évidemment. Lille qui a fait ce, entre guillemets, ce dérapage incroyable, tant ils étaient sur une dynamique extraordinaire à Sochaux. Score final 2 buts à 1 pour les Sochaliens. Tout s'est joué surtout en 3 minutes pour les Sochaliens. Perkis et Dalmat ont mis à la 8e et à la 11e but les réalisations socialiennes. Lille cède sa place de dauphin à Montpellier, donc, et Sochaux, lui, de se retrouver au 12e rang de la Ligue 1. C'est vraiment dommage, les Lillois, de tomber face à une équipe comme Sochaux. Flo, tu avais un petit peu prédit que la série allait s'arrêter. Est-ce que tu pensais que ça pouvait être comme ça contre une équipe entre guillemets de petit calibre comme le FC Sochaux? C'était vraiment un poil qui tombe contre un club comme Lyon, contre Marseille ou contre Bordeaux, je veux bien, mais j'imaginais jamais les voir tomber à l'extérieur comme ça face à Sochaux.
De toute façon, je veux pas dire ressortir les bandes, mais je l'avais un peu dit la semaine dernière.
Ah, ça y est, il commence à se la péter, ça y est, mais et direct il a le cigare, tu vois. La défaite du PSG est digérée, ça y est, il commence à attraper le melon et tout ça. Excuse, hein, Apollon. Hein.
C'était d'ailleurs tout à fait le genre de match qui cette équipe de Sochaux qui pouvait tout à fait faire tomber cette équipe de Lille. De toute façon, je l'avais dit, hein, avec leur effectif, les matchs qui vont s'enchaîner. Enfin voilà, Lille ne pourra pas tenir ce rythme, et on l'a bien vu aujourd'hui. Ils ont été dépassés, ils ont eu du mal à débuter ce match. Donc ça s'est payé le cash. D'ailleurs, une petite dédicace au grand Michael Landreau qui se mange un lobe de Stéphane Dalmat. Voilà, ça t'est fait la porte. Ça t'apprendra à monter tes grosses fesses encore dans ta surface, que voilà. Et puis bah Sochaux qui a bien su profiter.
C'est fou l'amour dont témoigne Flo pour ce cher Michael Landreau.
J'ai tellement entendu ces dernières semaines que Landreau était l'initiateur du Grand Lille et que c'était lui qui faisait tout et qui avait fait tout. Il faut quand même le souligner quand Monsieur Landreau, le grand Landreau, se fait complètement manger et complètement loin sur un but, parce que ça reste Michael Landreau quand même, sans acharnement, faut le dire, c'est tout. Donc voilà, Sochaux a
tout. J'imagine si Landreau avait fait sa panenka sous le maillot parisien, au final la Coupe de la Ligue, là, c'était face à qui? Face à Sochaux, justement, il me semble, c'était une équipe comme ça. Et enfin, en tout cas, oui, c'était avec Nantes, et j'imagine si ça avait été ça, Flo, je crois que tu l'aurais égorgé, je crois.
Ça aurait été déjà le truc. Enfin, ça suffit. J'avais toujours pu l'égorger sans ça, donc.
Non, mais on a dit pas de violence, s'il vous
plaît. Pour revenir au match, un excellent Stéphane Dalmat. Bon, sur ce match-là, il faut le souligner. Il est assez irrégulier, donc on va le dire aussi quand il fait des bons matchs. Donc voilà, ça a permis. Et aussi, ça a permis à Sochaux d'obtenir une victoire très importante. Le Fro qui avait la balle d'égalisation à la dernière seconde a loupé aussi, que
Lille était retrouvé son vrai niveau.
Voilà. Donc voilà, je pense que cette équipe, tu parles de ça, tu fais bien de souligner, je pense que cette équipe de Lille est un peu en sur-régime. Et attention, moi je dis, je les vois bien en faire une petite série là de quelques défaites. Donc suivez encore mes pronostics, et si vous voulez.
Il a encore la défaite 3-1 en travers de la gorge.
Et mettre une petite pièce sur les adversaires de Lille, vous pouvez, moi je le vois bien comme ça. Enfin voilà, donc Sochaux gagne, et c'est important pour eux, ils l'ont fait, donc voilà, ils peuvent être contents ce soir, avec un Stéphane Dalmat retrouvé, qui est magnifique, qui met des lobes maintenant, magnifique.
Montagnio a permis aux Montpellierains de reprendre la deuxième place au classement avec 39 points. Montagnio qui a marqué à la 87e minute à Bollaert, la face à Lens. Les Montpellierains qui gagnent encore, mais comme à chaque fois que Montpellier gagne, c'est toujours sur un score très très étriqué. Bon, ma foi, ce coup-ci, Montano n'a pas mis un but à la Maradona ou à la Messi, quoi. Il l'a fait régulièrement. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que les Montpellierains continuent leur bonne série. Et bon, là, ils vont commencer à plus nous saouler avec leur histoire de maintien. Ils ont 39 points, normalement, avec 3 de plus à 42, 43, ça devrait être bon. Donc là, Montpellier va pouvoir vraiment afficher ses ambitions et je suis curieux de savoir quelles pourraient être les ambitions d'un club comme Montpellier. Je sais pas, Narpi, je sais pas ce que tu en penses, toi. Comment tu, si tu étais supporter de Montpellier, comment tu pourrais envisager, est-ce que ça serait légitime d'envisager ne serait-ce qu'une place en Europe ou tout du moins aux alentours de la 5e ou 6e place? Je sais pas, tu vois ça comment, toi, si on devait te questionner sur les objectifs de Montpellier?
Si j'étais supporter Montpellier, bon, je penserais peut-être pas trop à la Ligue des Champions. C'est sûr que bon, à l'heure actuelle, ils sont deuxièmes. Mine de rien, ils restent réguliers. On pensait au début de saison que ça allait être la même chose que Grenoble la saison dernière. Mais au final, ils tiennent la route et ils sont beaucoup plus réguliers et continuent à enchaîner les bonnes performances. Maintenant, on attend toujours, avec espoir ou peur. La fin de ce grand, grand Montpellier qui montre encore des choses, des très belles choses. Là, il gagne à Lens, mine de rien, il gagne à Bollard, c'est jamais facile. Et à l'heure actuelle, Montpellier peut croire à une place en Europa League, on va dire quatrième, voire cinquième, pourquoi pas. Mais bon, c'est sûr que je les vois quand même pas aller au bout. Et choper une des trois premières places. Maintenant, bon, ça fait tous les mois qu'on dit ça et tous les mois ils nous font mentir.
Ouais, c'est clair.
Donc on verra quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Ils s'arrêteront peut-être un jour ou ils s'arrêteront peut-être jamais, tout simplement. Hein. Donc au final, on regarde les performances, on se dit bah pourquoi pas, pourquoi pas. Ils se gagnent à Lyon, on va voir les gros matchs contre Bordeaux, contre Marseille, contre Paris, et puis on verra s'ils pourront faire la différence. S'ils font la différence sur ces gros matchs-là, ils pourront peut-être espérer une place en Ligue des Champions. S'ils perdent ces matchs, bon, ils feront quatrième. Bah, tu sais, quand on regarde Lille, à l'heure actuelle, pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe du championnat. Maintenant, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que contre les grosses équipes lors de cette phase retour, est-ce qu'ils vont faire la différence? Ces deux équipes, ces deux outsiders, il y en a un qui est un peu plus logique que l'autre. Mais si ils arrivent à gagner contre les grosses équipes, vu les performances qu'ils enchaînent depuis quelques mois contre les petites, bah, je vois pas pourquoi ils pourraient pas aller en Ligue des Champions. C'est ces gros tests, ces gros matchs qui feront que ils iront en Ligue des Champions ou pas, comme toute
Non,
équipe.
mais t'imagines quoi, Montpellier en Ligue des Champions?
Bah,
J'ai juste peur pour la Ligue 1, quoi, c'est tout.
Ça va être folklorique.
cool.
Quand
Ouais.
Loulou Nicolin rencontrera Florentino Pérez,
Ça, c'est ça qui va être bon, ouais.
ça va être beau. Et puis quand Berlusconi débarquera à la Mosson, ça sera sympa aussi.
Ça sera bien dans l'ambiance. Berlusconi, les grandes tapes dans le dos, les largages de caisse en tribune, ça c'est bien le truc Berlusconi, ça, tu vois. Ma foi, peut-être que dans 3 ans, enfin on y croit toujours, Grenoble sera en Ligue des Champions également. Donc bon, enfin Grenoble c'est déjà plus prestigieux au niveau du stade et même au niveau de la direction, tu vois, avec des Japonais à la tête, ça fait déjà plus multinational confirmé.
Ah bah ouais, ça fait déjà. Ça va être sympa.
oui, Hugo.
En Montpellier en Ligue des Champions, pourquoi pas? De toute façon, les clubs français ils font rien, on sait qu'ils vont pas gagner, donc voilà. Ouais, pour le cœur.
Et quitte à conserver 2-3 places
Non, mais
qualificatives.
quitte, attends. Quand tu regardes Marseille, on ne s'est même pas qualifié en 8e. Tous les ans, on a un club qui va en Europa League ou un ou deux. Voire un qui est éliminé carrément. Donc, à la limite, on s'en fout.
Suis bien d'accord, mais je préfère avoir quand même des équipes françaises, des grosses écuries a priori françaises qui représentent la France en Ligue des Champions. Si t'as des petites équipes, voilà, c'est. Même pour la Ligue 1, pour le niveau de la Ligue 1 et pour enfin voilà, c'est ça le fait pas, quoi. Ça le ferait pas d'avoir Montpellier, même s'ils l'ont mérité sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions? Moi peut-être que Marseille ou d'autres équipes ne font rien, c'est vrai, mais ça peut être pire également, donc faut pas non plus enfin voilà.
ils demanderont aux hommes d'expérience. Ils ont Souleymane Camara qui a déjà joué à la Ligue des Champions. C'est quand même, ça, n'empêche, ça fait peur quand même. Quand tu vois que Souleymane Camara est titulaire dans l'équipe qui est troisième, qui est deuxième de Ligue 1, quand tu l'as connu à Monaco, n'est-ce pas, Hugo, tu peux quand même des fois te poser des questions.
Ouais. C'est comme Cédric Barbon, quoi. Oh là là.
Ouais, ma foi.
Ah, il y a des joueurs.
Qu'est-ce qu'il y a comme encore gros résultat? Lyon, évidemment. Lyon qui. On a cru à un moment où que Lyon allait vraiment retomber totalement encore dans leur travers. Heureusement, Lisandro Lopez et un doublé de Kalfström les a sauvés. Ma foi. Je sais pas trop ce qu'on en pensait. Je sais par exemple que. Lloris a encore fait un très gros match comme contre Nancy. Les Lorientais de leur côté, donc ils retournent un petit peu au classement et ils sont désormais 8e. Narpi, ouais, pour finir quoi, sur les Lyonnais, est-ce que tu penses que c'est bien beau, de critiquer Lyon, de leur critiquer, oui, ils ne gagnent pas avec la manière, etc. Mais est-ce que tu penses que pour se relancer, ça peut pas être assez bien de gagner 2-0 contre Nancy alors que c'était deux seules occasions, de gagner 3-1 contre Lorient avec deux buts de Kallström, de gagner contre Metz en Coupe de Ligue, tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut être quand même une base sur quoi redémarrer cette deuxième partie de saison?
Le match à Nancy, je le prendrais peut-être pas en référence quand même parce que c'était très très laborieux. Alors oui, ils gagnent. Mais alors à chaque fois, je suis le premier à dire que quand Bordeaux gagne sur la manière, ils gagnent avec quand même la manière du champion entre guillemets. Quand c'est Lyon, on va dire, faut rester quand même un peu plus réservé. Par contre, oui, une victoire à Lorient, il y a rien de mieux, surtout au niveau du scénario. Ils étaient menés 1-0, ils renversent la vapeur, ils gagnent 2-1. Il y a rien de mieux pour relancer, et surtout au niveau de la confiance, parce que il y a très peu d'équipes qui se sont imposées à Lorient et qui s'imposeront à Lorient. Donc pourquoi pas revoir Lyon sur le devant de la scène. Maintenant, faudra voir. Là, ils ont enchaîné deux bons matchs à l'extérieur. Faudra voir à domicile s'ils arrivent à gérer la pression. D'une part du public, même si on a tous tendance à dire que le public lyonnais n'est peut-être pas le plus chaud de France, et la pression aussi du résultat à domicile, tout simplement.
En parlant de ça, Larpi, juste pour te couper, il y a un bon petit match dimanche prochain, Lyon-PSG.
Oui, voilà, donc on verra déjà, là ce sera déjà un premier gros test. Même si on peut dire qu'à l'heure actuelle, gagner contre Lorient, à Lorient, est beaucoup, beaucoup plus difficile que gagner à domicile contre le PSG. Mais bon, c'est sûr que ce gros match, avec toute l'atmosphère qu'il y a autour et toute la pression,
ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
C'est voir comment les Lyonnais vont le gérer. S'ils le gèrent bien, oui, pourquoi pas, ils pourront se relancer et pourquoi pas espérer une place en Ligue des Champions. Mais une fois de plus, on le répète, il y a énormément de prétendants à ces places entre Lille, Marseille, Montpellier, Lyon. Donc on verra, hein, mais c'est sûr que cette victoire à Lorient, les Lyonnais doivent être très très satisfaits parce que gagner là-bas, c'est beaucoup plus difficile que gagner chez des clubs qui paraissent plus gros sur le papier, mais qui finalement ne le sont pas.
Très bien.